du vent dans les pages.
Pourquoi j'écris ? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça. Terrible.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'est l'écrivain américain.
Un anti-parlementaire.
Voilà, un muet, c'est un anti-parlementaire.
Un muet, c'est un anti-parlementaire.
Mais un athée.
Un athée, c'est un anti-moine.
Voilà, un croyant.
Donc un croyant, c'est un antiseptique.
Voilà. Et les Arabes du Caire
sont antisémites.
Et les sémites
sont anti-caire.
Voilà.
Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même.
Soyez les bienvenus dans le numéro 2 du Vent dans les pages, émission en plusieurs parties, toutes consacrées à la littérature, à celles et ceux qui la font vivre, pour le plaisir de nourrir notre cerveau de bons mots d'esprit, de pensées dérangeantes et divertissantes. Vous retrouverez tout au long de cette heure passée ensemble la rubrique d'Alex Dozier, Page Volante, qui nous parlera de Borges, suivie du plateau des invités enregistré ce mois-ci au café-librairie Le Liberté à Blois-Vienne, en compagnie de François et Lionel, tous deux bouquinistes. La chronique de notre amie Alice à l'abordage nous fera découvrir le livre d'André Pochon, Les Champs du Possible et plaidoyer pour une agriculture durable. Et nous terminerons par de la poésie en langue berbère dans Mots Métis, avec Rachid à la lecture. Alors déchirez vos factures, boudez votre banquier ou vice-versa et ressentez la caresse du vent dans les pages sur Studio Zef.
Page volante, aventures et mésaventures littéraires.
Par Alex Dozier.
Jorge Luis Borges, Pierre Ménard, auteur du Don Quichotte. Pour chacun d'entre nous, Don Quichotte est l'œuvre de Cervantes. Cela ne se discute pas. Borges, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, a tenté de prouver que non, que son véritable auteur était en fait Pierre Ménard, un auteur français qui aurait écrit le véritable Don Quichotte dans les années 30. Le texte où Borges révèle cette incroyable histoire est une nouvelle de quelques pages du recueil Fiction, initialement paru en 1944 en espagnol, puis en 1951 en langue française. Borges montre bien que Pierre Ménard n'est pas un simple plagiaire qui aurait recopié mot à mot Don Quichotte, ce qui ne présente évidemment aucun intérêt, mais qu'il l'a entièrement repensé tel que Cervantes l'avait écrit, en recherchant exactement les ressorts psychologiques et littéraires de l'auteur du XVIe siècle. Et là, il faut bien l'avouer, c'est une performance incroyable. D'ailleurs, Borges cite deux passages, l'un de Cervantes, l'autre de Pierre Ménard, qui sont en tout point identiques, les mêmes mots aux mêmes places. N'oublions pas que Cervantes écrivait dans un espagnol encore teinté d'archaïsme et que la tâche n'en était que plus dure pour Ménard. Borges se pose même la question de savoir laquelle des deux œuvres présente le plus d'intérêt, celle de Ménard bien évidemment. En effet, Cervantes n'a eu qu'à écrire le Don Quichotte, comme, je cite Borges, un génie ignorant. Ménard, lui, a dû le penser, retrouver chaque mot et pourquoi ce mot devait être écrit là. Il n'y a plus le hasard de l'écriture, la phrase écrite malgré l'auteur. Le travail de Ménard n'est que perfection. De plus, et c'est certainement ce qui est l'apport le plus important du Don Quichotte de Ménard, celui-ci étant né plus de 3 siècles après Cervantes, prend en compte nécessairement ce qui a été écrit durant cette période. Ainsi, son Quichotte subit-il les influences de Nietzsche, de Bertrand Russell, d'autres assurément. Ainsi, même écrit avec les mêmes mots, celui de Ménard est plus riche, car il contient plus d'influences philosophiques, culturelles et littéraires que celui de Cervantes. De plus, le sens sémantique de certains termes a changé depuis leur écriture sous la plume de Cervantes, ce qui conduit Borges à intégrer le lecteur dans le processus de création. Un lecteur espagnol du siècle d'or n'a pas pu lire exactement les mêmes choses, ni en tirer les mêmes significations que le lecteur de Ménard. En ce sens, bien qu'identiques, les deux Quichottes sont différents. Comme seront différents tous les Don Quichottes lus par de nouveaux lecteurs. À la question qui se poserait de déterminer la véritable paternité du Don Quichotte, Borges aurait répondu « Cervantes historiquement, Ménard littérairement ». Mais on pourrait rajouter, et Borges en conviendrait, chaque nouveau lecteur du Don Quichotte. Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui considère que la contrainte que s'impose l'auteur est la source de son inspiration, a reconnu Ménard comme étant le véritable auteur du Quichotte et Cervantes comme un plagiaire par anticipation. Évidemment, cette nouvelle suscita l'attention de nombreux auteurs et chercheurs. Notons Une vie de Pierre Ménard, biographie fictive de Pierre Ménard écrite par Michel Lafon chez Gallimard en 2008, et La vraie vie de Pierre Ménard, écrite par René Ventura aux éditions Lucie en 2009, où il est suggéré que le véritable Pierre Ménard aurait inspiré à Borges la rédaction de sa nouvelle. À lire donc Jorge Luis Borges, la nouvelle intitulée Fiction, l'un des livres que l'on ne peut oublier après l'avoir lu.
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.
Vous êtes toujours dans l'émission Du vent dans les pages. Je vous invite à présent sur le plateau des invités enregistré au Café Librairie Le Liberté pour parler du métier de bouquiniste en compagnie de Lionel et François.
François Beaujouan et Lionel Leroux, messieurs, bonjour.
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 Alors François, on va commencer par toi parce que en fait c'est toi qui nous accueille au Liberté. Voilà, t'es...
Avec plaisir.
Oh, bah, c'est gentil. on est vraiment bien là. Ouais. Donc, en fait, t'es libraire, t'es patron de bar. C'est un double concept, hein, double casquette.
Triple
voilà.
casquette.
Triple casquette, c'est quoi la troisième?
Avec les animations dans le bar, concerts, les causeries, les...
Ah ouais.
un peu tout.
Ah ouais, les rencontres. Et tu fais aussi un peu des partenariats avec les rendez-vous de l'histoire, par exemple.
Par exemple, ouais. oui. Okay. Oui, d'ailleurs, au moment des rendez-vous de l'histoire, là, je vais avoir un café historique sur les croisades.
D'accord. Bon, tu nous diras ça plus précisément voilà. tout à l'heure. ouais. Lionel, toi, ta petite boutique, elle est du côté de Place Louis XII.
Oui, au 2 de la rue Saint-Lubin, ouais. juste en bas du château.
Alors toi, tu vends juste des livres, hein.
Je vends juste des livres et tout ce qui tourne autour.
Alors, c'est quoi ce qui tourne autour?
Ce qui tourne autour, ça peut être des gravures, quoique je n'ai plus grand-chose à l'heure actuelle.
Ouais.
Y a quelques vinyles, ouais. voilà, des choses comme ça. Enfin, tout ce qui...
T'as aussi des vinyles?
Quelques-uns.
D'accord.
Très choisi.
Très choisi, c'est vrai?
Dans la mesure du
sélectionné,
possible.
Sélectionné, ouais. D'accord. Et alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire de présenter un peu ce que c'est que le métier de bouquinier, j'ai envie de vous poser une question de base. La différence entre libraire et bouquiniste, alors pour vous, c'est quoi, François?
Bah, disons que la réponse la plus évidente, c'est que le libraire vend des livres neufs et nous, on vend des livres d'occasion. D'accord. Mais on est libraire quand même, sauf qu'on a le choix de ce qu'on achète et de ce qu'on essaie de vendre. Pour les libraires, ils ont parfois le choix, mais on leur impose beaucoup de choses.
Oui, c'est qui leur impose? C'est-à-dire, c'est les éditeurs?
C'est les éditeurs voilà. qui font des dépôts.
D'accord. Voilà. Et vous, en fait, Lionel, par exemple, où est-ce que tu te fournis en livres? Chez qui tu vas?
Je ne sais jamais chez qui je vais. Ouais. Les gens viennent me voir, me demandent si je peux passer les voir pour soit suite à un déménagement, suite à une succession ou des gens qui veulent simplement se débarrasser de leurs livres. Et donc, j'achète aux particuliers essentiellement.
D'accord.
Et quelquefois à des marchands.
Quelquefois à des marchands aussi?
Oui. Parce qu'entre marchands, en fait, je ne sais pas, on ne saura jamais pourquoi, mais il y a des marchands qui vont bien vendre certaines choses et d'autres choses. Et on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça.
D'accord. Ouais. Et en fait, ça veut dire que vous leur proposez... Par exemple, quand vous allez chez un particulier qui vide sa bibliothèque suite à un déménagement, comme tu disais, ça veut dire que vous proposez un prix selon quels critères, finalement? Est-ce que ça nécessite, j'imagine, une connaissance quasi parfaite des cotes des livres d'occasion, de la valeur d'un livre ancien? Il y a une différence entre évidemment un livre de poche et un livre, une reliure du 18e, 19e. Comment ça se fait? Comment vous procédez?
Alors là, ça dépend effectivement de ce qu'il y a dans la maison. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le tout venant, mais qui peut aussi avoir son intérêt. Il n'y a pas de souci. Et là, les prix, quand il y a des belles choses, effectivement, une belle pièce, on va. Voilà, on va estimer d'abord la belle pièce, savoir combien soi-même on peut l'acheter pour pouvoir la revendre et ouais. quand même faire un minimum d'affaires avec, puisque c'est quand même c'est un petit peu de ça qu'on vit, donc voilà. Et puis après, ça va être plutôt un prix global pour tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est autre que belle pièce d'une certaine importance. Et puis après, on a nos petits barèmes en tête quelque ouais. part. Alors c'est dur, c'est compliqué à expliquer parce que nous-mêmes ne savons pas quelquefois comment
on s'en arrange. Il y a une part de feeling aussi. Hein.
Bah, il y a une part de feeling,
parce que
bien sûr.
Bon, il y a certains ouais. livres, on a envie de les avoir parce qu'ils sont beaux, ils nous plaisent, mais la valeur, parfois, on ne l'a pas en tête, on ne peut pas connaître. C'est tellement immense le domaine ouais. du livre que bon, bah voilà... En fonction aussi de notre état d'âme et de, et de notre envie de l'avoir, ouais. ça joue aussi. Hein,
tout ce qu'on n'a jamais vu est rare, forcément.
Voilà.
Ah oui. Donc on a l'impression, si c'est un peu un tant soit peu beau ou que ça nous parle, quoi, on va aller vers ça. Donc effectivement, il y a beaucoup d'instinct derrière tout
oui,
ça qui
oui.
fonctionne ou qui ne fonctionne pas, mais enfin, vaut mieux en avoir quand même.
Alors justement, à propos d'instinct, de feeling, voilà, est-ce que vous avez, comment dire, Est-ce que vous vous dites, eh bien, je peux vendre absolument tout dans ma boutique comme sujet, comme thème, ou est-ce que vous avez des limites, je dirais, éthiques, voilà, ou vraiment vous avez vraiment tous les sujets. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que vous avez par catégorie en fait dans votre boutique?
Moi, je ne m'arrête pas. Il va y avoir certains ouvrages, effectivement, que je ne me permettrai pas de vendre, d'une part parce que c'est interdit, et puis d'autre part, éthiquement, parce que ça ne m'intéresse pas. Après, maintenant, je ne m'interdis pas toutes sortes de sujets. C'est ce qui peut rendre quelquefois certaines discussions intéressantes dans la boutique. Même.
Ça veut dire qu'il y a des clients, des fois, qui sont surpris par un ouvrage, par exemple, et qui t'interpellent par rapport à ça, qui te posent des questions, ou qui sont choqués, ou qui sont... T'as eu déjà ça ?
Par rapport à l'éthique, pas vraiment, puisque les gens qui viennent, en général, sont habitués à voir beaucoup de choses différentes, sont assez ouverts d'esprit, donc... Mais, par contre, on peut en discuter. Mais il y a même des choses que j'ai chez moi, je n'arrive pas à savoir trop ce que c'est, j'attends d'avoir le visiteur, la personne qui va connaître cette chose et qui va m'affranchir, on va dire.
Et pour toi, François, comment ça se passe pour le choix ?
Mais pour le choix, d'abord, je n'ai pas de sujet qui ne m'intéresse pas. Hein, j'ai des rayons dans tous les domaines. Après, le choix, on essaie d'éliminer ce qui n'est pas de la bonne littérature, ce qui est de la littérature qui est pas forcément mauvaise, mais qui est plus lue actuellement, parce que c'est comme le reste, hein, il y a des moments de mode, il y a des auteurs qui sont archi connus, adulés pour un moment, et après, plus personne n'en veut. Donc voilà, on fait nos choix en fonction de ça, des auteurs qui sont toujours demandés, des auteurs plus récents, dont on estime que, ça doit le faire, quoi. Puis après, difficile,
ouais.
Hein.
Alors, dans vos boutiques respectives, parce que je les connais toutes les deux, évidemment, ton lieu, François, on peut s'installer, boire un thé ou autre chose et bouquiner. Voilà, et tu précises toujours que c'est possible de bouquiner sans les acheter, mais bien sûr que tous les livres sont à vendre.
Tous les livres sont à vendre, oui, mais c'est vrai qu'on peut, on peut rester une heure à bouquiner, ouais. Ça ne me gêne pas. C'est des livres qui sont déjà d'occasion, donc ils le sont encore après.
Et chez toi, Lionel, c'est pareil. Enfin, je sais qu'on peut s'installer. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, mais on peut s'installer tant qu'on veut.
Il y a des chaises.
C'est pas vrai. Une chaise.
Non, il y a deux chaises pliantes. Il y a même des chaises pour les enfants. Il y a ce qu'il faut. Même pour les gens qui fatiguent. Puis il y a des tabourets, il y a des escabeaux. C'est moins facile de s'installer sur un escabeau. Mais... Non, il y a ce qu'il faut pour
s'installer.
C'est surtout pour les gens qui fatiguent un peu. Quelquefois, ça arrive. Après, s'installer, oui, c'est possible, sauf que la boutique n'est pas faite comme ici. Et c'est plus petit, c'est un petit peu plus exigu. Donc, il y a ce qu'il faut.
Très bien. Et j'avais envie de vous demander, en lisant des choses sur le métier de bouquiniste, il y a des témoignages très enthousiastes sur ce métier-là. C'est souvent des gens qui sont passionnés par la littérature, par l'objet, par l'histoire du livre. Et puis, il y a aussi des gens qui s'essoufflent au bout de quelques années d'exercice et qui finalement diversifient leur activité en faisant souvent, par exemple, de la brocante, en vendant des objets. Tu parlais de gravures et de vinyles tout à l'heure. Est-ce que vous ressentez cette nécessité aujourd'hui, ou pour vous qui êtes installé depuis maintenant plus de 10 ans
12,
Lionel, et toi 10 ans, 12. Pour vous, vous voyez les choses comme ça en discutant avec vos collègues? Est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce qu'il y a une difficulté par rapport à ce métier?
Non. Faire autre chose, diversifier pour... Moi, le vinyle, c'est parce que j'en avais beaucoup chez moi et que j'aime ça aussi, quoi. Que j'ai moi-même une chaîne avec des vinyles que je ne vendrai jamais. c'est un tout petit rayon, hein. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Mais non, je ne ressens absolument pas l'envie de repartir sur autre chose, même si quelquefois c'est rigolo de faire la brocante, parce que c'est toujours rigolo de faire quelque chose qu'on ne connaît absolument pas.
Oui, mais ça peut être sympa, mais en fait, on peut faire une brocante, mais on ne la fait pas en professionnel à ce moment-là. On fait une brocante en amateur, mais pour les livres, ça suffit à soi-même, il n'y a pas de problème.
Alors, je sais que tous les bouquinistes ont des garages et des garages remplis de livres à ne plus savoir qu'en faire. Donc, mais qu'est-ce que vous en faites si vous ne faites pas les brocantes ? Ça reste dans la cave ou dans le garage ?
Il y a un moment donné où on commence à trier. Ouais. Alors, on commence à trier, il y a des choses, on se dit, oh, ça, je ne veux plus les voir, je ne veux pas, voilà, j'ai plus envie de... C'est pas que ce sont des mauvaises choses, mais voilà, on les a déjà vues trop souvent. Donc, moi, je sais que personnellement, j'en donne... Enfin, j'en mets sur la margelle de la boutique le samedi soir, quelquefois. Donc, ça part comme ça, les gens se servent. J'en donne à des associations et... Il faut savoir que quand on va chez des gens, quelquefois... On propose un prix pour certains livres, les gens vous disent oui, mais vous emmenez tout. Donc on se retrouve avec
des stocks
énormes. Donc à un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Bon, bah ça, c'est tout le travail qui ne sert à rien aussi, parce que ça fait perdurer la chose. Hein. Je veux dire, le livre continue à circuler. Nous, on n'en profite pas, ça nous prend du temps, ça ne nous rapporte pas d'argent, mais au moins, ça continue à circuler. Ça ne va pas en déchetterie, ça ne va pas.
Et toi, Françoise, tu gères à peu près de la même manière ?
Moi, c'est pareil. Hein, j'en mets devant la porte régulièrement. Et les associations, pareil, on en trouve. Il y a toujours... D'ailleurs, il y a une association à Romorantin qui envoie des livres en Afrique. Je ne sais pas si tu la connais.
Non, mais ça m'intéresse.
Ça peut être très intéressant.
Puis il y en aura, mais...
Et comme, comme ils ont noyé cet hiver avec les crues, là... Oh. Donc, ils ont tout un stock. Moi, je pense faire un don important dans les mois qui viennent.
À cette association, ouais. D'accord. Une petite question sur le numérique. Est-ce que vous pensez que l'arrivée des tablettes, c'est une menace pour les bouquinistes et les libraires en France hein, voilà. Ça ne vous inquiète pas ?
À vrai dire, j'en sais rien. Moi, j'ai vu, j'ai un copain qui est arrivé l'autre jour, il m'a montré comment un Astérix sur une tablette grande, format BD. Hein. J'avoue qu'au niveau des couleurs, au niveau de tout ça, c'est super bien reproduit. Donc ça fait un peu peur. Mais en même temps, ça fait un peu peur. Voilà, c'est, ça reste quand même des choses qui vont être dans une machine, c'est pas très physique. Moi, c'est pas pour ce genre de choses que ça m'inquiète, c'est peut-être plutôt pour d'autres documents. Il faut qu'il y ait les deux, quoi. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. C'est pas... Enfin, les deux peuvent cohabiter. Après, maintenant, il y a déjà beaucoup de livres qu'on ne vend plus, comme les livres de cuisine, les encyclopédies, tout ça. On ne vend plus tout ça. Mais bon, ça n'empêche pas de continuer. Après, il faut faire preuve d'imagination.
Oui, François.
Je pense que ça va faire plus de mal aux libraires de neuf qu'aux libraires d'occasion, parce qu'en fait, le livre d'occasion, c'est déjà une démarche d'amoureux du livre. Donc voilà, alors en plus, si c'est des livres illustrés ou des choses comme ça, alors là, il n'y a pas de concurrence de la tablette. Ça, c'est...
Ouais. Alors, on fait un saut en arrière. Je voudrais revenir sur la librairie ancienne. Est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs ce qu'on appelle librairie ancienne ? Quelle est la différence entre un livre de poche et une reliure ? Lionel ?
Entre un livre de poche et une reliure, il y a...
Bah oui, mais toi, ça te paraît évident, mais...
c'est bien que tu l'aies posé à toi, c'est
ouais, t'as le temps de réfléchir pendant ce temps-là. Je vais essayer de m'en dépatouiller. Bon, déjà, le livre de poche n'existe que depuis les années 50. Bon, c'est un petit format. Mais des reliures, il y en a aussi en petit format. Hein. Il y en a, voilà. Là, ce qu'on appelle une reliure, c'est relié cuir en général. Bon, c'est relié aussi avec de la ficelle, tout ça. Enfin, c'est tout un travail. Bon, pour en revenir à ce qu'on appelle la librairie ancienne, souvent, c'est ce qui est avant le 20e, quoi, on va dire.
T'as des noms comme ça ou enfin des auteurs pour situer un petit peu dans la chronologie.
Dans la chronologie de... Pour moi, ce qu'on appelle librairie ancienne, ouais. Maintenant ce qu'on appelle librairie ancienne, quand on va me demander l'ancien, effectivement, ça va être ce qui va être, ça va commencer début 20e, fin 19e. Il y a quelques années, la librairie ancienne, pour certains, ça ne commençait pas avant le 18e siècle. Voilà.
D'accord. Donc la librairie ancienne, c'est un terme un peu subjectif dans le métier, quoi. François ? C'est,
oui, oui, oui.
Parce que tu en as pas mal, là. Tu as des belles reliures, là.
Il y en a quelques-uns, oui, mais bon, en fait, disons que la librairie dite moderne commence avec le XXe siècle. Hein,
Alors, pour terminer notre petit plateau, est-ce que vous pouvez repréciser vos adresses et vos horaires d'ouverture, François ?
Ah, moi, je suis situé au 21 de l'avenue Wilson, c'est Blois-Vienne, et je suis ouvert de 10h à 20h du mardi au samedi.
Et toi, Lionel ?
Alors, moi, je suis aux 2 rue Saint-Lubin, donc au pied du château. Alors, quant aux horaires, là, c'est pareil, c'est un mystère. Non, les horaires, en général, c'est à partir de 10h à 10h30 le matin, jusqu'à 19h le soir. Quelquefois, on est ouvert non-stop, ou jusqu'à midi et demi, 13h, ça dépend vraiment du flux de gens. Et il y a des périodes, où, comme le mois d'août, où là, j'ai essayé d'ouvrir 7 jours sur 7, c'était presque réussi. Et puis voilà, sinon c'est du mardi, en général on va dire du mardi au samedi. Mais quoi qu'en ce moment on est ouvert le lundi après-midi. En gros, il y a un numéro de téléphone sur la porte, il faut appeler. Si je suis dans le coin, que quelqu'un a vraiment besoin de quelque chose, en vitrine par exemple, en général je réponds.
Je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir participé à cette petite table ronde. Et puis j'espère que les... Alors ah oui, est-ce qu'il faut un diplôme pour être bouquiniste ?
C'est ça que j'oubliais de... Non, mais vaut mieux connaître un peu la littérature et puis connaître le livre quand même, parce que c'est pas parce qu'un livre est relié qu'il est beau, qu'il a de la valeur, qu'il est intéressant. Voilà, donc il faut quand même avoir un minimum de pratique, faut être passionné avant de devenir bouquiniste, sinon on se plante.
Il faut s'être mis en position d'essayer de le faire.
Ouais.
Et en fait, il faut être curieux et avoir l'instinct. Hein,
c'est ça.
C'est après, une fois qu'on sait qu'on est suffisamment curieux,
mais
qu'on a suffisamment d'instinct.
C'est un métier qu'on ne peut faire que si on aime le livre, parce que si on l'aime, on le connaît. Sinon, si on le fait comme un brocanteur, on dit oh, tiens, je vais vendre des. Alors là, c'est pas possible. Mmh. Quoi.
Du vent dans les pages continue avec À l'abordage, suivi de mots métis.
Il est question d'agriculture aujourd'hui avec un livre qui n'est pas vraiment récent puisqu'il est paru en 1998. Il s'agit du Champ des possibles, plaidoyer pour une agriculture durable d'André Pochon. Alors André Pochon, c'est un paysan breton qui s'est réveillé dès le début des années 60 en pratiquant l'agriculture durable. Et comme il a vu que ça fonctionnait très bien, il a pris son bâton de pèlerin pour tenter d'évangéliser le monde agricole et le convertir aux bienfaits de l'agriculture propre. Alors il l'avoue lui-même, hein, au début il s'est converti non pas par militantisme environnemental mais par pragmatisme. Il s'est tout simplement rendu compte qu'en nourrissant ses vaches à l'herbe plutôt qu'aux compléments protéiniques et en éliminant les intrants chimiques, il faisait de sacrées économies et il augmentait ses marges. Après, il est devenu paysan écologiste militant. Bref, nous sommes en 98, à la veille de la réforme de la PAC de 2000, et André Pochon revient sur 50 ans de politique agricole commune. Il explique comment l'Europe, pour subvenir aux besoins alimentaires d'après-guerre, a encouragé la production agricole par des aides directes, jusqu'à provoquer d'énormes excédents revendus à perte à l'étranger. Alors inutile de vous dire que cette surproduction provoquait une baisse des cours internationaux. Pour les pays subventionnés, pas de souci. Mais pour les pays en développement, c'était la catastrophe. D'autant plus que les barrières douanières empêchaient l'import de denrées déjà présentes en Europe. Alors à propos de barrières douanières, justement, elles n'étaient pas valables pour les produits absents sur le sol européen. Du genre du soja, par exemple. Ça tombe bien. Comme les Américains en avaient plein les silos, ils ont trouvé le filon et l'ont refourgué aux paysans européens. Qui se sont retrouvés à donner des tourteaux de soja à manger à leurs animaux plutôt que de l'herbe. Enfin bon, de toute façon, de l'herbe, il n'y en avait plus, puisqu'il valait mieux produire des tonnes de céréales ultra-subventionnées. Et puis, comme le lait était subventionné aussi, il valait mieux le vendre aux laiteries que le garder pour nourrir les veaux ou les cochons. Donc, il fallait bien trouver des produits de substitution. André Pochon le dit tout net, ce n'est plus de l'agriculture, c'est de l'industrie. En 1987, le rapport McSharry fait le bilan de 16 ans de politique agricole commune. Eh bien, l'Union européenne a multiplié par 7 les subventions, mais le nombre d'agriculteurs a été divisé par 2. Leurs revenus stagnent ou diminuent. 80% des subventions sont attribuées à 20% des agriculteurs, qui plus est dans les régions les plus prospères, qui en ont le moins besoin. Alors quand il est question de revoir la PAC en 1992, André Pochon y croit, ça y est. Tout le monde a compris qu'il faut baisser les aides pour baisser la production, qu'il faut octroyer les primes compensatoires en priorité aux petits producteurs et aux régions les plus pauvres, et surtout qu'il faut les conditionner au respect de l'environnement. Mais là, allez savoir pourquoi, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin bon, André Pochon, il a une petite idée quand même. Figurez-vous que la FNSEA, elle n'était pas vraiment emballée pour partager le magot avec les petits. Du coup, les primes compensatoires ont été attribuées aux plus gros producteurs céréaliers. De là, parler de lobby... Enfin bon, hop, c'était parti pour la course à l'agrandissement pour toucher les primes à l'hectare. Après 92, ce sont carrément 85% des aides qui vont à 20% des agriculteurs. En 1996, leur montant atteint la moitié de celui de l'assurance chômage. Alors comme l'écrit Pochon, c'est quand même assez étonnant des aides pour détruire autant d'emplois dans l'agriculture et pour polluer les sols. Et parce que figurez-vous que si on conditionne les aides au respect de l'environnement, c'est l'industrie agricole et chimique qui ramale. Et la grosse menace, si vous faites ça, ça va détruire des emplois. Par contre, que la moitié des paysans ait disparu au détriment de la vie rurale ne semble poser de problème à personne. Juste avant la réforme de la PAC de 2000, Pochon écrit, je cite, « La valeur ajoutée du modèle productiviste est extrêmement faible. Hors subvention, elle est nulle, voire négative, malgré un chiffre d'affaires élevé. » Fin de citation. Mais il y croit encore. Il donne même ses recettes aux paysans, lui qui gagne sa vie avec son métier. Équilibrer l'élevage et la production végétale, assurer une rotation des cultures, cultiver des plantes adaptées au climat et non pas du maïs qui demande de l'irrigation, élever des animaux sur la paille plutôt que sur du béton où ils se blessent, nourrir les ruminants avec de l'herbe et investir raisonnablement dans du matériel. Du bon sens, quoi. Pour lui, une agriculture durable, c'est, je cite, « une agriculture qui préserve dans le long terme le sol, l'air, les paysages, qui permet de produire à moindre coût, donc avec le maximum de valeur ajoutée, et de ce fait, qui permet d'employer des paysans nombreux et prospères. » Fin de citation. Mais une agriculture durable, c'est une agriculture qui ne fait pas vivre les usines d'ammonitrate, de pesticides, de mécaniques agricoles, d'aliments du bétail. Tout ça sonne bigrement d'actualité, non ? Pourtant, je vous le rappelle, ce livre a été écrit il y a près de 20 ans, en 1998. Alors pour finir, je me contenterai de reprendre la conclusion d'André Pochon. Choisir son alimentation est désormais un acte politique.
Blue for me and you, and I say to myself,
Mométis, la poésie voyageuse. Rachid est né entre la montagne et le désert à Tiznit, petite bourgade du sud marocain, où l'on parle encore berbère, la langue qui nous intéresse aujourd'hui. Selon d'où l'on vient, la langue berbère se dit aussi kabyle, chaoui ou encore tamashek, la langue des Touaregs du Sahara. Malgré l'imprécision des chiffres des populations berbères, les linguistes et historiens pensent qu'un immense territoire a été submergé par la culture arabe et que seules ont subsisté les populations des régions montagneuses et des déserts. Rachid va nous lire des extraits de l'œuvre du poète Mohamed Ouagrar, intitulée Tinou, qu'il a également mis en scène dans le cadre du festival Timitar Off, interprété par la troupe de comédiens de Tiznit.
Mohamed Ouagrar Ahlafi, c'est un poète contemporain amazigh qui est membre de l'Union des écrivains du Maroc, mais aussi du syndicat marocain de théâtre. À son actif plusieurs recueils de poésie, notamment Tinitin, Tinou. Il a également fait de la traduction. Il a notamment traduit la fameuse pièce En attendant Godot de Samuel Beckett. Et c'est quelqu'un qui a aussi travaillé dans le domaine du théâtre. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre. J'ai choisi de vous lire certains extraits de son recueil Tinou. Alors Tinou, ça veut dire mienne. C'est un recueil de poésie qui parle de la féminité, de l'idée de la féminité dans l'univers, pas que chez la femme, hein, partout, dans les éléments. C'est un recueil qui parle de l'amour, de la féminité, de la femme, chez l'auteur, aussi bien chez l'auteur qu'un peu partout dans le cosmos, dans l'univers. Donc je vais vous lire certains extraits de ce recueil. يغيس غليان ارتنتي صغال ورتا اللزانت ورتا يضريميس يقاسنتي فرق يتاك الرايتي زمرتنت تمغن تمغن يلي غن تمغ اتين وغمارور تقميمين تمغن تمغن يلي غن تمغ غوك ضرور ازنبو دواليم يا رمان يا رمان يلي غيقي يرم ابضان ومارق النونت إرين داغيقي بلي ونا تكزومت أتكزومت انتسان وتقنين نونت أرن إلما تغوالغ أرن تغوالغ اللي غيد قيم مدين تدمرين إقد سيتي زرين نونت تمرغن إرين إرين أديس قلان أداون تقلغ أداون تقلغ أتينو استنى دارون تطفن تيق سأون دوغوليد دون زقوم القرا غديتو نتاتينو اورتو سيغ يتقليت فوم قردينو فوم قردينو تقليت اوريت تقوزني كال اني دن زقوم هن كينور اورتو سيغ يتقليت هذا وانت قال غستنى دارون تطف نتيق اسيس دي موريق اقا دواليق امن دي دوكال الو دي دوامان
Merci à Alice, Rachid, Lionel, François, Alex et à l'équipe de Studio Zef. Rendez-vous au mois prochain pour un numéro 3 du Vent dans les pages. En attendant, bonne lecture.